Le journal Sarah Mansoura.
Bonjour Caroline, bonjour à tous. La main tendue du président algérien à la contestation populaire qui secoue le pays depuis plus de 10 mois pourrait rester en suspens au lendemain de l'élection. Dès le premier tour d'Abdelmejid Tebboune, les manifestants du mouvement Irak restent convaincus de la continuité du système. Reportage à Alger. La Chine et les États-Unis enterrent l'âge de guerre, en tout cas sur le plan commercial. Un nouvel accord préliminaire a été décidé entre Washington et Pékin. Il se livrait une guerre des droits de douane depuis 2 ans. Quelle portée à cette annonce? Nous y reviendrons depuis Pékin.
Reportage à Rome également, alors que le mouvement des sardines s'apprête à fêter son premier mois d'existence. Le mouvement de contestation en réaction à l'élection du très droitier Matteo Salvini tente d'opérer une révolution douce en Italie.
Nous reviendrons aussi sur la grève en France, la mobilisation contre la réforme des retraites. 10e jour de grève dans les transports qui commence à avoir un impact sensible sur les commerçants, très inquiets à la veille de Noël. La réforme des retraites peut être fragilisée par la position inconfortable de son haut commissaire aux retraites. Jean-Paul Delevoye a encore fait un oubli dans sa déclaration à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique.
Et puis en fin de journal, une étude inquiétante pour la santé publique. La consommation de crack et de cocaïne est en hausse.
Et puis dans un quart d'heure, votre invitée, Caroline Brouet.
Nous sommes très heureux d'accueillir l'essayiste américain mondialement connu Jeremy Rifkin. Nous allons parler du New Deal vert mondial. C'est le titre de son livre et c'est le grand sujet du moment.
La contestation populaire ne devrait pas faiblir de sitôt en Algérie. Elle pourrait même continuer à vivre au rythme des manifestations chaque vendredi. Hier n'a pas fait exception pour l'élection de son nouveau président. Abdelmajid Tebboune, élu avec 58% des suffrages exprimés, aura pourtant du mal à convaincre la rue. Cet ex-fidèle du président déchu Abdelaziz Bouteflika a surtout profité d'une abstention massive de près de 60%. Le mouvement de contestation Irak a donc boudé l'élection. Le président veut leur tendre la main. Mais Mathilde Dehimi, pour eux, son destin est bien trop lié au régime de son prédécesseur.
Les manifestants parlent d'un 5e mandat déguisé, référence à la candidature envisagée d'Abdelaziz Bouteflika avant son renoncement. Rien ne changera avec son successeur de 74 ans, estime Rachid.
On a eu une élection qui n'est pas du tout légitime. Des candidats parachutés, et là on se retrouve avec un président qui était Wali, premier ministre, lors du règne de Bouteflika. Donc on n'est pas du tout d'accord avec ce qui est en train de se passer.
Pas question pour eux de dialoguer avec le nouveau président comme il le propose. Il n'y aura pas de retour en arrière.
Les dés sont jetés maintenant, madame. On est en mi-chemin, oui, bien sûr.
Le mouvement va continuer sans se durcir, assure Faudil.
On continuera à se battre pacifiquement. On n'a pas le choix. Ça leur fera beaucoup de mal. C'est une subtile comme arme, pas la violence du tout. Ils veulent provoquer pour défaire tout ce qu'on a construit comme mécanique de lutte.
Mais pour cela, le mouvement doit avancer, explique Tarek, malgré les arrestations de certaines personnalités émergentes.
En fait, ils ont coupé l'herbe sous le pied de ce mouvement-là. Il faut qu'il y ait d'autres leaders ou peut-être d'autres organismes qui commencent à se structurer pour pouvoir faire en tout cas une période de transition pour avoir une vraie démocratie derrière.
Le nouveau président algérien promet une nouvelle loi électorale et la fin de la corruption sans convaincre les manifestants engagés, disent-ils, dans un mouvement très long.
Le reportage de Mathilde Dehimi à Alger. L'Union européenne va bientôt dire au revoir au Royaume-Uni. Le pays devrait quitter l'Union dès le 31 janvier. C'est en tout cas la promesse de Boris Johnson. Le Premier ministre britannique, fort d'une victoire écrasante des conservateurs au Parlement, a lancé hier un appel au rassemblement. Avec leurs 365 sièges sur 650, les Tories font un score comparable à Margaret Thatcher en 1987. Mais le geste de Boris Johnson pourrait rester vain, en Écosse en tout cas, car les autres vainqueurs du scrutin, les nationalistes écossais du SNP annoncent vouloir lancer à nouveau un référendum sur l'indépendance.
Pékin et Washington marquent une trêve dans leur guerre commerciale.
Près de 2 ans après le début d'une escalade de droits de douane punitifs qui fragilisait l'économie mondiale, la Chine et les États-Unis ont annoncé hier un accord préliminaire. La correspondance à Pékin de Dominique André.
Dans le bureau ovale, Donald Trump se félicite de cet accord préliminaire qui vient d'être conclu entre Washington et Pékin.
Ça va être l'un des meilleurs accords jamais conclus. Ça va nous ouvrir encore plus le marché chinois qui est incroyable avec 1,5 milliard d'habitants.
Les États-Unis retirent donc leur menace de nouveaux tarifs qui devaient entrer en vigueur ce dimanche et peser sur 160 milliards de dollars d'importations chinoises. Le représentant américain au commerce confirme aussi que Washington va alléger progressivement certaines taxes douanières imposées aux produits fabriqués en Chine. De leur côté, les négociateurs chinois s'engagent Et c'est une bonne nouvelle pour les producteurs américains de soja, notamment, à acheter plus de produits agricoles en provenance des États-Unis.
Je pense qu'ils vont nous acheter pour 50 milliards de dollars de produits agricoles. Là, bientôt, ils ont déjà commencé.
Pour l'instant, il ne s'agit que d'un accord de principe. Le document n'a pas encore été paraffé. Mais l'annonce de ce premier succès permet à Donald Trump, quelques instants seulement, de détourner l'attention de la procédure d'impeachment qui le vise.
C'était bien évidemment la correspondance à Washington de Grégory Phillips, envoyé spécial de France Culture. C'est un accord donc fantastique qui écrit Donald Trump. Le président américain n'a pas tardé à réagir hier sur Twitter. Lui qui avait fait de la lutte commerciale avec la Chine un point fort de sa campagne en 2016, eh bien il tend la main à son grand rival. Bonjour Jeremy Rifkin.
Good morning.
Bonjour. Essayiste américain, vous venez de publier le New Deal vert mondial aux éditions Les Liens. Alors le président américain Donald Trump est fragilisé par cette procédure d'impeachment qui le vise. Est-ce qu'une annonce comme celle-ci peut-elle peut le renforcer désormais ?
Je ne pense pas que le président Trump comprenne l'état d'esprit des Chinois quand on en arrive à des accords commerciaux. La Chine regarde au long terme. Ils ont la grande image pour savoir où ils veulent aller sur un siècle. Et ces petits accords à court terme, peut-être que ça donne un petit coup de Twitter, mais je peux vous garantir que le président Trump ne comprend rien à la sophistication du gouvernement chinois et la façon dont il considère les impacts à très long terme.
Merci beaucoup à Jeremy Rifkin. Vous restez avec nous, bien sûr, sur France Culture.
Ah ben, on espère.
Pour la suite, pour votre entretien avec Caroline Brouet. Tout à l'heure, il sera question de Green New Deal et de COP25. La COP25, justement, qui termine sur une impasse. La conférence climat de l'ONU qui s'est poursuivie au bout de la nuit à Madrid. Une conférence empêtrée dans des négociations très lentes. Pas vraiment à la hauteur de l'ambition affichée en début de mois. Hier, les positions étaient encore figées sur les principaux sujets de discussion, notamment la réduction des émissions de gaz à effet de serre ou le financement pour les pays du Sud.
Elles se sont donné rendez-vous au cœur de la capitale italienne. Les sardines vont fêter leur premier mois d'existence à Rome.
Ce mouvement qui s'oppose au populisme d'extrême droite de Matteo Salvini, qui prône une révolution douce et qui espère réunir 100 000 personnes cet après-midi, place Saint-Jean-de-Latran. C'est là même où Matteo Salvini avait réuni 70 000 personnes il y a deux mois pour triompher avec la droite et l'extrême droite italienne. Bruce de Galzin, vous avez rencontré la figure du mouvement des sardines, Mattia Santori.
Le phénomène des sardines est un miracle pour l'Italie et pour Mattia Santori. C'est lui qui le dit, car il n'y croyait pas avant que la mobilisation prenne une telle ampleur et qu'autant de gens le remercient.
Il y a une lumière dans les yeux des gens qui a quelque chose de magique. Tellement de personnes viennent nous dire qu'elles ne se sentent plus seules, qu'elles ont redécouvert un rôle à jouer dans la société, un intérêt pour la politique. Et ça, c'est vraiment excitant.
C'est en buvant une bière et en mangeant une pizza avec ses trois anciens colocataires trentenaires de Bologne que Mattia Santori lance l'idée de remplir la grande place de la ville pour ne plus laisser l'espace qu'à Matteo Salvini. Et c'est bien lui et son populisme haineux qu'il veut battre le 26 janvier prochain dans sa région de Bologne. Mais si la Ligue gagne...
C'est sûr que ce sera une défaite parce qu'il est ce que nous combattons. Si les slogans gagnent sur la bonne gouvernance, si les promesses électorales gagnent sur les faits, ce sera une vraie défaite pour tous et surtout pour nous qui croyons à autre chose.
Pour l'instant, pas question de se lancer en politique. Mattia Santori compte ses sardines. Selon lui, elles dépasseront le demi-million après le rassemblement de Rome.
Bruce de Galzin à Rome.
France Culture, 8h10, suite du journal avec la grève dans les transports qui ne montrera pas de signe de faiblesse aujourd'hui au 10e jour de mobilisation. Les perturbations vont rester fortes dans les transports. Le Premier ministre Édouard Philippe demande à la SNCF de préparer un plan.
Un plan de transport, effectivement, pour déterminer quels trains seront maintenus à Noël. Le patron de la SNCF, lui, demande une trêve aux cheminots grévistes. Mais pour le moment, la grève reste très suivie, comme depuis le début. Et les effets s'en font ressentir chez les commerçants. Après déjà 9 jours de grève, 6 commerçants sur 10 affirment avoir été durement touchés, plus durement que l'an dernier. Exemple dans ces magasins parisiens avec Simon de Faucompré.
Deux heures de marche sous la pluie et de bus bondés pour Shira avant d'ouvrir son magasin de prêt-à-porter. Mais la galère ne fait que commencer.
Il faudrait que je fasse 4 000 € par jour pour faire mon objectif.
Et là, vous faites quoi ?
Hier, j'ai fait 85 €. Les gens ne sont pas du tout dans l'optique de dépenser. Lundi, j'ai ouvert ma boutique, j'ai eu 5 passages. 5 passages, j'ai fait 0 €.
Son chiffre d'affaires est 20% plus bas qu'en décembre dernier. C'est la moyenne pour toutes les enseignes de prêt-à-porter à Paris. Et ça chute jusqu'à 60% dans des grandes villes comme Toulouse, Montpellier ou Rennes. Nour, vendeuse dans une bijouterie, n'attend pas grand-chose de ce Noël 2019.
Je pense qu'il est déjà raté parce qu'on est passé à côté de beaucoup de ventes. Beaucoup de gens ne peuvent pas se déplacer. Et je pense que les gens ont moins envie de se déplacer. En général, à cette période de l'année, le magasin, il est tout le temps occupé. Là, il n'y a personne.
Maintenant que la CGT Cheminot a menacé de maintenir les perturbations sur les rails pour Noël, l'inquiétude est partagée par Francis Palombi, président de la Confédération des commerçants de France.
Le mécontentement reste total. Ça veut dire qu'on va passer des fêtes catastrophiques. Le pouvoir d'achat va baisser. Les trésoreries des entreprises vont continuer à s'épuiser pour aller jusqu'à la fermeture des magasins. Dans certains cas, c'est une situation compliquée.
Beaucoup de commerçants comptent déjà sur les soldes pour relancer un peu la machine en janvier. À condition, disent-ils, que les grèves soient finies d'ici là.
Simon de Faucomprès, la grève n'est pas finie, bien au contraire, elle continue, mais l'exécutif affiche sa détermination. Emmanuel Macron évoque une réforme des retraites historique, mais son haut-commissaire aux retraites, Jean-Paul Delevoye, est une nouvelle fois fragilisé. Il y a un nouvel oubli dans sa déclaration à la Haute Autorité de la Transparence de la Vie Publique, Stéphane Robert.
La déclaration d'activité à la Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique est obligatoire pour un membre du gouvernement et Jean-Paul Delevoye a fait son entrée dans l'équipe d'Édouard Philippe en septembre dernier. Or, si on consulte le dossier qu'il a adressé à la Haute Autorité mi-novembre, dans la case numéro 6, celle où il est demandé d'indiquer les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts, il n'a renseigné ni sa fonction d'administrateur de l'Institut de formation à la profession de l'assurance, ni le siège qu'il occupe, là encore à titre bénévole, au conseil d'administration de la Fondation SNCF, une annexe du groupe public qui fait du mécénat pour des projets associatifs. Il avait en revanche bien déclaré son poste de président d'honneur du cercle de réflexion Parallax, pour lequel il percevait une rémunération de 5 300 € par mois et dont il a démissionné il y a 2 jours. Mais ce poste-là, il n'avait plus le droit de l'occuper, selon l'article 23 de la Constitution, qui interdit à tout membre du gouvernement d'exercer en parallèle une activité rémunérée. Delevoye a indiqué qu'il allait rembourser les sommes qu'il a perçues illégalement ces 3 derniers mois, à savoir un peu plus de 16 000 €. Mais ça ne règle pas tout. Déjà sur le plan de la légalité, la Haute Autorité est en train de vérifier son dossier avant d'envisager d'éventuelles suites judiciaires. Et le parquet de Paris commence aussi à s'intéresser à l'affaire. Le procureur général a demandé un certain nombre de précisions. Ensuite, sur le plan politique, Jean-Paul Delevoye est désormais grandement fragilisé, au point qu'il a fait savoir hier qu'il n'exclut pas une démission pour préserver la réforme des retraites qu'il est censé porter au printemps prochain devant le Parlement.
Stéphane Robert, une étude de santé publique inquiétante à présent. La consommation de crack s'est élargie à des publics insérés socialement. C'est la formulation retenue par l'Observatoire français des drogues et toxicomanies. Ce dérivé de la cocaïne très addictif s'est étendu sur le marché, tout comme la poudre blanche dont le prix moyen a très fortement diminué, 70 € le gramme seulement. Pour Agnès Cadet-Tariou, médecin et co-auteur de l'étude, les trafiquants ont réussi à étendre leur réseau.
On a des arrivées, des flux de cocaïne très importants qui arrivent en France. Donc on a par exemple des plus jeunes, des personnes un petit peu plus jeunes qui vont se mettre à consommer de la cocaïne parce que ça devient plus accessible, il y en a beaucoup. Par ailleurs, il y a une concurrence très importante, déjà aussi importante sur le sol français, entre les différents produits et entre les différents réseaux. Et actuellement, lié aux deux phénomènes, on a aussi une cocaïne qui, pour les amateurs en fait, hein, je précise bien, pour les gens qui sont susceptibles d'en consommer, est considérée comme de très bonne qualité. Et puis, il y a un dernier phénomène qui est à l'œuvre depuis déjà plusieurs années. C'est vraiment des pressions, en fait, des réseaux pour se rapprocher, en fait, de le plus possible des usagers. C'est le phénomène des livraisons, des promotions par SMS, jusqu'à quelque chose qui devient très important en fait ces dernières années. Au début, ça n'existait qu'à Paris. Maintenant, ça existe dans plusieurs grosses agglomérations. C'est ce qu'on appelle les cocaïne call centers. C'est des plateformes où, de façon très très facile, vous avez un numéro, vous appelez ou vous envoyez un SMS pour être livré et on vous livre votre produit.
Un mot de la météo pour votre samedi. 16 départements en vigilance orange pour vents violents et inondations dans le sud-ouest. Principalement, le temps restera perturbé sur la journée. Côté température, comptez 9 degrés à Lille et Strasbourg, 10 à Brest et Lyon, 12 à La Rochelle, 15 à Pau, 16 à Biarritz et Marseille et jusqu'à 17 degrés à Nice.